Les séminaires du Collège de France.
Bien, donc on va pouvoir commencer à écouter Miguel. Donc, comme j'ai déjà introduit Miguel, il va nous parler, faire part de toutes ses réflexions sur l'innovation et les progrès qu'il a fait, notamment récemment, sur l'innovation comme science. Et,
merci Lydéric. Quel beau moment. Merci à toi de m'avoir offert ce moment de partage, d'échange. Il y a 20 ans, on publiait ensemble des résultats sur les charges effectives dans les systèmes colloïdaux. Après, on se retrouve sur un sujet qui nous passionne tous les deux. 20 ans, c'est à la fois long à l'échelle d'une vie et court à l'échelle d'une recherche fondamentale. Dans ta leçon introductive, tu citais Anne Sylvestre, j'adore cette citation, « Là où j'ai peur, j'irai ». Et comme toi, je suis allé là où j'avais peur. J'ai démissionné de mon poste de chercheur en physique théorique il y a 20 ans, pour m'intéresser à un sujet qui n'était pas un sujet à l'époque, même pas considéré comme un sujet, qui était la créativité et l'innovation. Et je croyais que je changeais de vie, et en fait, je changeais de sujet de recherche, tout simplement. Alors, tu racontais dans cette leçon que le mouvement intellectuel que tu avais fait, c'était vraiment de descendre de l'universalité de l'équation de Navier-Stokes vers ce qui va être spécifique dans les petites échelles. De mon côté, moi, je faisais le mouvement inverse. Ce que je cherchais, c'est ce qu'il y a d'universel dans la créativité et l'innovation. Et quand je dis universel, c'est indépendant du champ disciplinaire particulier où on s'intéresse. Donc je cherchais ce qu'il y avait de commun à un chercheur en physique ou en sciences fondamentales, à un ingénieur, à un artiste, à un entrepreneur, par exemple. Alors, je vais le dire d'une manière particulière, d'une manière que j'ai mis 20 ans à trouver, en fait, parce que, je vais le dire simplement, mais les mots que j'utilise là, j'ai mis 20 ans à les comprendre. Je sais que je vais utiliser des mots qui ne sont pas compréhensibles par tout le monde, et c'est normal, mais je pense que c'est important que je les dise ici, et puis ici, c'est aussi un endroit où peut-être certains vont me comprendre. Je cherchais l'équivalent pour l'innovation de la théorie de Landau, des transitions de phase en physique. Non pas la partie mathématique, parce que le domaine de la créativité, de la création, n'est pas encore peut-être mathématisable, mais vraiment cette idée de comprendre la compréhension la plus fondamentale restituée sous la forme la plus élémentaire, la quintessence d'une théorie de physique. Et c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui, cette quête, là où j'en suis arrivé essentiellement. Et pour ça, je vais commencer par vous raconter un cas d'étude. Alors, j'aurais pu penser à Picasso quand il invente le cubisme, à Mohamed Yunus quand il invente le microcrédit. On est dans une chaire d'innovation technologique et donc j'ai choisi un exemple d'innovation technologique. Je vais vous parler du cas d'étude d'innovation de l'aspirateur sans sac. Et je m'excuse d'avance pour ceux qui l'ont déjà entendu. Donc nous sommes à l'été 1978. James Dyson a 31 ans. Voilà James Dyson, à quoi il ressemble à peu près à l'été 78. Il a 31 ans, il a déjà inventé des choses remarquables. Il a inventé le Sea Truck et le Balbaro. Le Sea Truck, c'est un bateau à fond plat qui permet d'apporter des charges lourdes jusque sur la plage, donc notamment des camions. Et puis le Balbaro, c'est une brouette dont on a remplacé la roue par un ballon. Quel intérêt ? C'est que la brouette est beaucoup plus stable ainsi, et puis surtout, en cas de terrain boueux, elle ne s'enfonce pas. On est en Angleterre. Et c'est très utile. Alors la première invention, il l'a laissée à l'entreprise qu'il avait payée pour le faire. Et puis avec la deuxième, il a créé lui-même une entreprise avec des associés qui s'appelle la Kirk Dyson Incorporation. Et puis à l'été 78, cette entreprise a une trentaine d'employés. Elle est rentable, mais elle n'est pas profitable. Ils ont urgemment besoin de trouver un nouveau produit, autre que le Balbaro, en fait. Ce jour-là, James Dyson passe l'aspirateur chez lui. Il a pris soin d'acheter l'aspirateur le plus puissant qui existe sur le marché parce qu'il a des lattes en parquet. Et puis, scène d'une banalité affligeante, il passe l'aspirateur. Sauf qu'il s'aperçoit au bout d'un très court temps que l'aspiration est empêchée. Son aspirateur, il a l'impression de pousser la poussière bien plus que de l'aspirer. Alors, il est un peu surpris, son réflexe est de changer le sac d'aspirateur. Effectivement, de nouveau, ça marche, mais pareil, au bout de deux pièces, écrit-il dans ses mémoires, qui s'appelle en anglais « Against the odds », en français « Dans la cour des grands », il dit « Ça marche plus ». Donc il s'arrête, cette fois-ci, il est vaguement énervé, et puis il commence à ouvrir son aspirateur, il commence à mettre les mains dans le sac d'aspirateur, il revient avec une fine poussière sur ses doigts, et là, il comprend ce qui se passe. Que se passe-t-il ? Les premières poussières aspirées vont boucher les pores du sac et empêcher toute aspiration ultérieure. Donc c'est vraiment une question de c'est un problème de fond, c'est pas son aspirateur, tous les aspirateurs qui fonctionnent ainsi ne marchent pas. Donc il est très énervé, il n'y a rien à faire, et puis il continue à pousser la poussière chez lui. La scène suivante se passe en octobre 78. Donc quelques mois après, il est dans son atelier et il a un problème de poussière, de peinture. Vous avez vu, le bal barreau possède un cadre métallique noir. Comment on fait ça en industrie? On charge le cadre, mettons positivement, on envoie une poussière chargée négativement, elle recouvre le cadre, on augmente la température, elle forme un film noir, et puis on a peint le cadre. Mais la séquence où on envoie la poussière, c'est une séquence atroce. Il y a de la poussière partout, on en a dans les yeux, on est obligé de porter des masques, ça encrasse les machines, ça se dépose partout, c'est une catastrophe. Et donc ce jour-là, Dyson décide d'appeler la personne qui lui a vendu le système en disant « on a un problème ». Et puis cette personne lui répond « mais oui, bien sûr, vous avez un problème comme tous nos clients ». Oui, c'est quoi la solution ? La solution, c'est d'acheter un cône inversé. Un cône inversé. Elle dit « oui, c'est exactement ce qu'on utilise dans les silos à grains pour séparer le grain de la poussière ». On en trouve assez couramment. Ok, ça coûte combien ? 75 000 livres de l'époque. James Dyson n'a pas cet argent. Donc il raccroche et puis il se dit qu'à cela ne tienne, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et vous avez cette scène qui est hallucinante, moi j'adore cette scène où samedi soir, il attend que lui soit arrivé, il prend sa voiture, il s'habille en noir, il prend une lampe torche et puis il saute la barrière d'un silo à grains dans la campagne anglaise et puis à la lampe torche, il prend les mesures de cette espèce de cône de séparation. Il ne sait pas comment ça marche, il prend juste les mesures où est-ce que le moteur se situe, où est-ce que l'embouchure est, etc., etc. Et le lendemain, le dimanche, il revient dans son atelier et puis il commence à plier de la tôle, à souder pour fabriquer lui-même ce cône. Et c'est un gros cône, il est obligé d'ouvrir le toit, enfin c'est pas rien. Mais à la fin de la journée, au moment où il branche cette machine et puis il envoie la poussière chargée de l'air chargé de poussière, eh bien ça marche, l'air pur sort en haut et puis la poussière tombe en bas. Et raconte-t-il, c'est à ce moment-là qu'il a cette idée de dire « mais si j'étais capable de faire un cône de la taille d'une bouteille de Perrier, je serais capable de faire un aspirateur sans sac ». Et donc il fonce chez lui, et son réflexe c'est ça, c'est de refaire la même chose, mais à l'échelle d'une bouteille de Perrier avec du Chatterton et puis du carton, il l'insère dans son aspirateur et puis ça marche, de la même manière. Et là il s'assoit et il comprend que c'est ça qu'il a envie de faire. Le lendemain, il fonce dans son entreprise, il explique à tous ses co-actionnaires, co-industriels qu'il a trouvé, c'est ça qu'on veut faire, c'est un aspirateur sans sac. Puis là, grand classique de l'innovation, deux mauvaises réponses. Première réponse d'un de ses actionnaires, James, si c'était possible, Hoover l'aurait déjà fait. Hoover, c'est le numéro un des aspirateurs dans le monde. Évidemment, une réponse sans fondement. Et deuxième réponse, un peu plus intéressante, mais en même temps, comment dire, un frein à l'innovation assez classique. Deuxième actionnaire qui lui dit, on avait décidé qu'on ferait des produits de jardinage. L'aspirateur, ce n'est pas un produit de jardinage. Tenons-nous-en à la stratégie qu'on avait élaborée. Je vais vous faire une histoire longue, un peu courte. Il se fait virer de sa boîte. Avec le petit pécule, il décide de faire lui-même cet aspirateur. Au passage, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Voici un dessin extrait de son livre. Lorsque l'air chargé de poussière arrive dans le cône, il se met à tourbillonner de plus en plus vite à mesure que le diamètre diminue. En tourbillonnant, il y a une force centrifuge qui va plaquer les poussières sur les côtés et puis la gravité va faire son effet, elles vont tomber. Mais à ce moment-là, dimanche soir, il ne le sait pas. En fait. Donc il décide de faire lui-même l'aspirateur. Ça, il commence à faire des prototypes. En mars 81, il dépose le brevet. Et puis, son réflexe, c'est d'aller démarcher les industriels en disant « je vais vous vendre le brevet ». Et puis, il les démarche tous. Et c'est un échec total. C'est un échec total non pas parce que son produit ne marche pas, au contraire, parce qu'il marche très bien. Le marché des sacs d'aspirateurs, ça représente 650 millions de dollars par an. Et aucune entreprise n'a envie de se séparer d'une telle somme. Donc les gens refusent son produit, non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont terribles de l'autre côté. Il arrive à en commercialiser quelques-uns. Avec cet argent, il décide, et puis l'expérience accumulée, il décide de lancer lui-même la production. Et puis, en mai 93, il sort le premier Dyson, qui est celui-là, donc le 2C01. Et puis, très rapidement, encore une fois, ça va diffuser en Angleterre. Il va être numéro un en volume, numéro un en chiffre d'affaires, etc. Et puis, ça va grandir jusqu'à devenir une innovation. Il a calculé, et j'aime ce chiffre, il a calculé qu'il a fait 5127 prototypes. Bon, je vais retrouver, moi. 5127 prototypes entre le 1er janvier 79 et puis mai 93. Voilà ce qu'il écrit. Au moment où j'atteignais mon 15e prototype, mon 3e enfant naissait. Au 2627e prototype, ma femme et moi comptions notre argent. Au 3727e, ma femme donnait des leçons d'art pour que nous ayons un peu d'argent. C'était des temps difficiles, mais chaque échec m'a amené plus près de résoudre le problème. Ce n'est pas le dernier prototype qui a donné tout son sens à mon travail, c'est le processus qui portait le fruit. Je n'ai fait que m'y atteler. Voilà, c'est une histoire admirable, c'est une histoire étonnante, et puis c'est surtout une histoire édifiante, c'est-à-dire qu'elle nous apprend beaucoup de choses sur un processus d'innovation. Première leçon, le processus d'innovation ne commence pas par une idée. Tous ceux qui sont dans le domaine le savent, mais c'est pas, ça reste un mythe, en fait, qu'on est obligé de régler son compte à chaque fois qu'on parle d'innovation. Oui, le processus d'innovation, la première étape, c'est quand il observe que son aspirateur avec sac ne marche pas. Donc, ce n'est pas le moment, en octobre 78, où il a l'idée. Deuxième leçon intéressante, au moment où l'idée apparaît, ce n'est pas clair. On a ce mythe de l'illumination, je reviendrai là-dessus, comme quoi au moment décisif, où l'idée apparaît dans le cerveau de la personne innovatrice, c'est comme si la lumière s'éclairait tout d'un coup. Non, ce n'est pas vrai. Souvenez-vous, et pour ça, c'est un exemple que j'aime beaucoup. Au moment où il fabrique son premier prototype, Dyson ne sait pas comment ça marche, tout simplement. Quoi. Je veux dire, il n'a pas l'explication scientifique, ou même, enfin, il n'a pas l'explication, tout simplement. Troisième leçon, prototyper beaucoup, 5127 prototypes, c'est un chiffre impressionnant, mais c'est un chiffre qui permet de comprendre comment, à chaque fois, il a ajusté son produit à ce que, dans le monde de l'entrepreneuriat, on appellerait le besoin client, en fait. Et quatrième leçon, peut-être celle qui va nous intéresser le plus ici, c'est la structure du processus d'innovation. On voit que dans le processus d'innovation, on trouve trois jalons. Alors, les voici ici. Premièrement, une observation clé, ce que j'appelle une observation clé, c'est-à-dire le fait que l'aspirateur avec sac perd l'essentiel de sa force très rapidement. Deuxième jalon, l'idée clé, séparer les poussières avec un cône de la taille d'une bouteille de Perrier. Puis enfin, troisième jalon, l'objet clé, le modèle DA001. Le terme objet que j'utilise ici, c'est un terme générique. Il peut s'appliquer, encore une fois, ce que je cherche, c'est une universalité dans ma description, donc il va s'appliquer autant à un ingénieur ou à une personne ingénieure qui va créer un prototype, qu'à un scientifique qui va publier un article majeur, qu'à un artiste qui va faire une œuvre, qu'à un entrepreneur qui va faire une start-up. Donc c'est vraiment le terme générique que j'utilise pour dire la chose que la personne innovatrice réalise. Donc voilà, trois jalons. Alors vous allez me dire, c'est plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Pourquoi c'est plus compliqué? Parce que lorsque James Dyson nous raconte l'histoire de l'aspirateur sans sac, il ne nous raconte que ce qui concerne l'aspirateur sans sac. Voilà à quoi je pense que ça ressemble en réalité. Pendant toute cette phase où il cherche un nouveau produit, ça a l'apparence, je crois, d'une marche au hasard dans sa tête, dans son esprit. Il va avoir des idées, il va observer des choses sans que ces choses-là n'aient de conséquences. Et puis, à un moment, il va faire cette observation clé que l'aspirateur avec sac ne marche pas. Mais à l'été 78, il ne peut rien en faire. Donc, il va continuer son chemin mental jusqu'à ce moment décisif où il va avoir l'idée clé. Alors, il se passe deux choses à ce moment-là. Première chose, l'idée du cône de la taille d'une bouteille de paille émerge à sa conscience, première chose. Et deuxième chose, cette idée s'accroche avec l'observation qu'il a faite quelques mois avant, comme quoi l'aspirateur avec sac ne marche pas. Dans notre culture, on retient souvent le premier des deux événements, à savoir l'émergence de l'idée. Mais je crois profondément que le plus intéressant, c'est l'accrochage qui se produit entre l'observation clé et l'idée clé. Dès ce moment, tout change pour lui. Il y a une rupture, une discontinuité ici. Pourquoi ? Parce qu'on passe d'un phénomène de marche au hasard, mental bien sûr, à un phénomène de marche dirigée. James Dyson sait ce qu'il veut faire. Alors bien sûr, il va faire des essais qui vont être inaboutis, il va avoir des idées qui ne vont pas marcher, mais essentiellement, il est guidé dans sa progression par son objectif de faire un aspirateur sans sac. Donc voilà, et pourvu qu'on garde cette structure un peu complexe en tête, on peut quand même simplifier le processus sous la forme de cette représentation schématique de trois jalons. Ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est qu'elle est universelle. Je peux vous décrire Picasso inventant le cubisme, on retrouve ces trois jalons. Je peux vous décrire Fleming découvrant la pénicilline avec Howard et Chen, on retrouve ces trois jalons. Je peux vous décrire en entrepreneuriat Mohamed Yunus inventant le micro-organisme, on retrouve ces trois jalons. Donc on a quelque chose qui est universel, c'est ce que j'appelle un tout petit peu pompeusement le premier principe d'universalité. Alors je vais aller trop vite. C'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les processus d'innovation. Alors évidemment, et c'est important de le dire, les échelles temporelles varient. D'accord ? Le cas de Dyson, on l'a vu, il s'écoule quelques mois entre l'observation clé et l'idée clé, et puis 15 ans entre l'idée clé et l'objet clé. On retrouve quelque chose d'assez semblable, par exemple, dans le processus de découverte de la pénicilline. Quelques mois entre septembre 28, quand Fleming découvre que un champignon est capable de détruire les staphylocoques dans sa boîte de pétri, et puis mars 42, le moment... octobre 28, le moment où il a l'idée d'en faire un médicament, et puis mars 42, la première pénicilline qui sort des usines américaines. Mais les échelles de temps ne sont pas toujours comme ça. Alors, bien sûr, il y a des concomitances. Il arrive des processus d'innovation où l'observation clé et l'idée clé arrivent au même moment. Mais la plupart du temps, elle arrive avant, et puis elle arrive parfois bien avant. Un des exemples que j'aime citer, c'est la théorie des courants océaniques de Ekman, 1905. Il s'écoule 10 ans entre l'observation clé et l'idée clé. L'observation clé, c'est Fridtjof Nansen qui l'a fait en 1892, lors de cette expédition qui s'appelle expédition Fram pour aller au pôle Nord. Il observe que la dérive des masses glaciaires, la dérive des icebergs, ne correspond pas au vecteur du vent. En fait, il y a un angle, 20 degrés à peu près entre les deux. Et il faut attendre 1902 pour que Ekman ait l'idée que ce qui est responsable de cette différence angulaire, c'est la force de Coriolis. Et il met 3 ans à publier l'article, donc vous avez 10 ans entre les deux, et puis 3 ans. On retrouve tout un tas de configurations, mais c'est intéressant de voir que les échelles temporelles varient. Non seulement les échelles temporelles varient, mais parfois, ce n'est pas la même personne qui fait l'observation clé, l'idée clé et l'objet clé. Dans le cas de Fridtjof Nansen, ce n'est pas la même personne qui fait l'observation clé qui a l'idée clé. Dans le cas de Fleming, par exemple, dans la pénicilline, c'est Fleming qui fait l'observation clé, qui a l'idée clé, mais c'est Howard et Chen à Oxford qui ont les moyens scientifiques de réaliser une poudre suffisamment pure pour que la pénicilline devienne réellement un médicament et faire des essais cliniques. Donc voilà, mais ça reste universel. On retrouve ces trois jalons. Cette représentation schématique a un intérêt, c'est qu'elle nous permet de discuter des échelles temporelles qui sont en jeu, de l'importance de ces jalons, de leur ordre, mais aussi de l'échelle temporelle. Simplement, elle a un défaut, c'est qu'elle nous empêche de comprendre quelque chose qui est fondamental, c'est que ces trois jalons n'ont pas la même valeur, en fait, dans le processus. Et pour comprendre la valeur, je vais m'abstraire de la dimension temporelle et faire une représentation symbolique de ce processus. Voilà à quoi ça ressemble. Vous avez l'alliance entre l'observation clé, ici, et l'idée clé. C'est cette alliance qui va produire l'objet clé à la fin. Et vous voyez qu'effectivement, observation clé, idée clé et objet clé n'ont pas la même valeur dans ce processus. Alors, cette formule est intéressante. Elle est même extrêmement riche d'enseignements et je vais tourner un tout petit peu autour de cette formule pendant un temps pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, première remarque, pour ceux qui sont versés en entrepreneuriat, ils vont retrouver quelque chose qui est un concept fondamental en entrepreneuriat qui est ce qu'on appelle la proposition de valeur. Et notamment... La formulation faite par Osterwalder, Pinière et Tal, qui nous dit que la proposition de valeur, c'est l'alliance entre deux choses. Dans leur vocabulaire, ça s'appelle le customer profile et le value map, donc le profil du consommateur et puis la carte de valeur. Voilà, on retrouve cette alliance. Alors ceux qui sont très attentifs, en plus d'être versés dans l'entrepreneuriat, verront que la signification des symboles n'est pas tout à fait la même, mais peu importe. On retrouve ici ce résultat fondamental de l'entrepreneuriat. On le retrouve, mais évidemment, cette formule qui est ici, elle généralise ce résultat, si vous voulez, à tous les champs disciplinaires concernés par l'innovation, puisqu'elle est valable aussi en art, alors que le concept de Pinheur et Osterwalder ne vaut que pour l'entrepreneuriat. Deuxième élément intéressant, cette formule nous ouvre des portes, fait des ponts vers d'autres champs scientifiques qui sont extrêmement intéressants. Premier exemple, pour ceux qui ont un tout petit peu de culture, on reconnaît là ce qu'on appelle en chimie une réaction de synthèse. A plus B donne C, en fait. Et même, il y a peut-être plus intéressant, en tout cas c'est une piste que je trouve ultra intéressante, cette idée que finalement en biologie on retrouve exactement le même phénomène. Le couple observation-clé-idée-clé ressemble, et c'est un vain mot, ressemble au couple gamète mâle gamète femelle dans la reproduction sexuée en biologie. Donc là on a un pont qui est ultra intéressant vers d'autres domaines. Je ne vais pas explorer plus avant, mais vous dire simplement qu'on a ce point. Dernier élément intéressant, ce que je vous ai décrit, c'est l'innovation. Mais en même temps, cette formule nous permet d'avoir accès à une distinction qui est extrêmement intéressante, c'est la distinction entre créativité et création. Vous voyez qu'elle apparaît immédiatement. Vous avez d'un côté la créativité, c'est l'alliance entre l'observation clé et l'idée clé, et puis de l'autre côté, la création, c'est la transformation de cette alliance en un produit. Cette distinction n'est pas extrêmement répandue. Les gens utilisent beaucoup les deux vocabulaires sans distinction, et là, elle apparaît d'une manière claire. Et non seulement elle apparaît d'une manière claire, mais vous voyez quelque chose qui est, je trouve, extrêmement intéressant, c'est qu'il y a une différence profonde de nature entre la créativité et la création. Pourquoi ? Parce que la création, c'est un processus, et la créativité, c'est une réaction. Fondamentalement, ce n'est pas du tout la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là ? La création, c'est quelque chose qui est continu, qui est incrémental, qui est progressif. D'accord ? C'est bien ce que nous dit Dyson quand il parle des 5127 prototypes, lorsqu'il nous dit que ce n'est pas le dernier qui a donné tout son sens, c'est l'ensemble du processus qu'il a fait. Dans un autre vocabulaire, dans un autre champ disciplinaire, Bruno Latour, quand il nous parle du processus de création, nous parle d'un concept fondamental qu'il a apporté, qui s'appelle le delta d'apprentissage. Ce qui fait qu'une création va donner des fruits, c'est l'incrément d'apprentissage que les personnes innovatrices vont avoir. Et ce delta, bien sûr, c'est une référence mathématique à une variation infinitésimale. On est dans un processus. Mais vous voyez par ailleurs que la créativité, non. La créativité, c'est comme une réaction chimique. Vous avez l'observation clé et l'idée clé. Pendant très longtemps, il ne se passe rien. Et puis, à un moment, les deux s'accrochent. Et vous voyez que, et moi le premier, pendant très longtemps, on a parlé d'un processus de créativité. Je pense que c'est profondément une erreur de parler d'un processus de créativité. Parce qu'on n'est pas dans quelque chose d'incrémental. Et d'ailleurs, on aurait pu le savoir. Quand on parle d'illumination, on parle d'un processus qui est fulgurant. On parle de quelque chose qui est du type 0-1, booléen, en fait. On ne parle pas de quelque chose qui est du type progressif. Donc voilà une première distinction. Je vais en faire une deuxième. Et là, je vais rentrer dans un autre... Je vais ouvrir une porte. Enfin, je ne vais pas l'ouvrir complètement, mais je vais quand même l'ouvrir, l'entrebâiller. Ben, cette idée que la créativité, finalement, c'est l'alliance, une observation clé d'une idée clé. Ici, on est sur un changement de paradigme très important. Pourquoi ? Parce que ben, dans notre culture, la créativité, c'est associé à l'idéation pure, c'est-à-dire la capacité de produire une idée originale. Et vous voyez que l'analyse des cas d'études nous amène à penser, au contraire, que la créativité, c'est la capacité de réaliser une alliance entre une observation de terrain fine et puis une idée. C'est cette alliance qui compte. Et vous voyez quelles conséquences ça peut avoir pour tous ceux qui travaillent sur ce domaine de créativité. C'est-à-dire, ben, finalement, l'idéation, c'est qu'un aspect de la partie créativité, et tant qu'on n'a pas le travail de terrain, on va avoir du mal à arriver. J'ai entrebâillé cette porte, je reviendrai là-dessus si jamais ça vous intéresse. Alors, cette discussion est très conceptuelle, très théorique, donc je vais rentrer un tout petit peu dans le vif du sujet. Je vais un peu essayer de répondre à cette question très simple. Qu'est-ce qu'on cherche finalement ? C'est quoi une observation clé ? C'est quoi une idée clé ? C'est quoi un objet clé ? Alors, qu'est-ce qu'une observation clé ? Ben, une observation clé, ce n'est pas n'importe quelle observation. Elle a des caractéristiques, le mot que j'utilise c'est attribut, et on peut, je crois, penser qu'elle a trois attributs. C'est un détail singulier, c'est un détail méprisé. Reprenons le cas d'étude de Dyson. Oui, le fait que la puissance de l'aspiration choit quand on l'utilise, c'est un détail. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà passé un aspirateur avec sac, combien d'entre nous ont remarqué que la puissance avait chuté? Très peu. Donc c'est un détail. Et c'est un détail singulier. La réaction de Dyson est un peu énervée de comprendre qu'en fait ce qu'il avait acheté ne marche pas. Et puis c'est un détail méprisé. Pourquoi? Parce que personne n'a envie de trifouiller dans un sac d'aspirateur. Enfin, la scène que j'adore où Dyson met ses mains dans le sac d'aspirateur, c'est quand même une scène où il met les mains dans l'endroit le plus rebutant de la maison, l'endroit, le réceptacle de toutes les détritus de la maison. Donc on retrouve ces trois attributs et on les retrouve encore une fois en art, chez Picasso, on les retrouve en entrepreneuriat, chez Yunus, etc. etc. Qu'est-ce qu'une idée clé ? Quatre attributs, elle est liée à l'observation clé, c'est la fameuse alliance dont j'ai parlé. Elle est vivante, provocante et ubiquiste. Le concept d'une idée vivante, c'est un concept un tout petit peu compliqué, mais en même temps, au premier ordre du raisonnement, on peut distinguer trois caractéristiques. D'abord, c'est une idée qui est floue. D'accord ? La première caractéristique d'une idée clé, c'est qu'elle n'est pas claire. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez toutes les personnes innovatrices. La première instance de l'idée ne correspond jamais à ce qui va être fait plus loin. Non seulement elle ne correspond jamais à ce qui va être fait plus loin, mais elle n'est absolument pas claire. En fait, personne ne la comprend. C'est une des vraies difficultés du processus d'innovation. Deuxième instance, elle est rémanente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est caractérisée par le fait que la personne innovatrice est comme hantée par cette idée-là. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment très, très couramment. D'ailleurs, Dyson le disait comme ça au moment où il est viré par ses associés. Et il se demande qu'est-ce qu'il va faire. Il a cette phrase dans ses mémoires, il dit « I couldn't give up the ghost », je ne pouvais pas abandonner le fantôme. Donc il y avait un fantôme en lui, ce fantôme c'était le fantôme de l'idée, de l'aspirateur 105. Et puis enfin, elle évolue avec le temps. C'est une autre caractéristique du fait qu'elle soit vivante, c'est comme elle est rémanente, elle revient régulièrement dans l'esprit de la personne innovatrice, et elle revient, et à chaque fois qu'elle revient, elle évolue, elle se raffine, elle se confronte à la réalité, elle se confronte à l'imaginaire, et donc elle va évoluer. Donc on retrouve c'est vraiment ces caractéristiques-là. Troisièmement, elle est provocante. Souvenez-vous des 650 millions de dollars de sacs d'aspirateurs. Et puis elle est ubiquiste. Le terme ubiquiste, un terme un peu savant pour dire qu'une chose très simple et très mystérieuse à la fois d'ailleurs, c'est que la même idée apparaît au même moment portée par des gens qui s'ignorent. Ici je cite Ogburn et Thomas, qui ont fait un travail remarquable de documenter ce phénomène. 1922 quand même, on est sur un article qui date un peu. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas des gens qui aient repris ce travail parce qu'il est fondamental en fait. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les processus d'innovation. Enfin, Facebook n'était pas la première entreprise à proposer un réseau social, l'iPhone n'était pas le premier smartphone, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'un objet clé ? Ce n'est pas n'importe quel objet. Évidemment, d'abord, il prouve la possibilité de réaliser l'idée clé. Il rend obsolète la réalité antérieure. Il y a comme un concentré de temps dans l'objet clé. C'est assez fascinant. Il y a comme un concentré de temps. Enfin, pour ceux qui ont plus de 30 ou 40 ans ici, ils se souviennent peut-être assez probablement du moment où ils ont vu un iPhone pour la première fois. Tout le reste devenait obsolète. Enfin, il y avait vraiment un avant et un après. Et puis, les aspects domestiqués et écosystémisés, ce sont des aspects qui renvoient à l'interaction de cet objet. Encore une fois, terme générique. Donc, l'aspect domestiqué, c'est l'interaction de l'objet avec les humains qui sont censés l'utiliser. Donc, est-ce que cet objet fait sens ? Est-ce qu'il est familier ? Est-ce qu'on va l'adopter ? Et puis, l'aspect écosystémisé, c'est les interactions de cet objet avec les autres objets alentour, les autres artefacts alentour. Par exemple, dans le cas de l'aspirateur Dyson, l'objet a été domestiqué par Dyson en sens que Il a par exemple évité soigneusement de mentionner la vitesse du flux d'air dans le cône, parce que cette vitesse est considérable et elle aurait effrayé les personnes qui utilisent l'aspirateur, qui auraient eu peur de l'utiliser tellement le chiffre est incroyable. C'est un aspect de la domestication, c'est vraiment faire en sorte que l'étrange devienne familier en un sens. Et puis l'aspect écosystémisation, l'entreprise Dyson est celle qui, pour la première fois, a proposé un système où, en plus de l'aspirateur, vous aviez un tube séparé qui permettait, à l'aide d'une variété d'embouts, d'aller nettoyer sa voiture ou nettoyer ses rideaux. Et là, on voit comment cet objet interagit non seulement avec le sol, mais avec les différents artefacts d'une maison et même avec une voiture. Ça a été un des facteurs de succès considérable. Voilà. Au final, vous avez une liste de 11 attributs qui sont caractéristiques du processus d'innovation si on les met les uns après les autres. Et encore une fois, ces 11 attributs se retrouvent dans tous les cas d'études que j'ai pu examiner, et croyez-moi, j'en ai examiné beaucoup, que ce soit Picasso, entrepreneuriat, sciences fondamentales, etc. C'est pourquoi j'appelle ça le deuxième principe d'universalité. On retrouve ces attributs à peu près partout. Et de la même manière que j'ai discuté longuement de la formule symbolique du processus d'innovation, je vais tourner autour de cette liste parce que, encore une fois, elle contient des informations que je trouve ultra intéressantes à partager. Alors, discutons des difficultés du processus d'innovation. À chacun de ces attributs est associé une difficulté. Prenons quelques exemples, je ne vais pas les faire tous. Quelques exemples. D'abord, un détail. Mais oui, comme le disait Kahneman, prix Nobel d'économie, « The human brain does not deal well with non-events. » L'esprit humain ne sait pas s'y prendre avec les non-événements. Et une observation clé, c'est toujours un non-événement. C'est quelque chose qui passe complètement inaperçu aux yeux de la plupart des gens. Donc on a cette dimension, c'est une difficulté de faire attention aux détails. Quand j'ai commencé à travailler sur ces sujets-là, je ne me rendais pas compte d'une dimension extrêmement importante et qui apparaît comme ça de temps en temps, mais j'aurais dû y penser, mais je pense que c'est aussi ma formation de scientifique qui ne m'avait pas habitué à raisonner de cette manière-là, mais la dimension politique qu'il y a derrière tous ces processus. Le fait d'être attentif aux détails est, et vous en conviendrez assez facilement, extrêmement dépendant de la quantité de temps qu'on a. Je veux dire, et je vais le dire autrement, une bonne manière de castrer intellectuellement la plupart des gens brillants, c'est de leur donner trop de travail, et donc ils ne seront jamais attentifs aux détails, et donc ils ne seront jamais capables d'innover. En fait. Encore une fois, j'entrebâille une porte, si jamais ce sujet vous intéresse, posez-moi des questions à la fin. Prenons l'exemple de mépriser, le troisième attribut de l'observation clé. Une observation clé, c'est toujours quelque chose qui est méprisé. Et c'est là où on retrouve ce concept extrêmement important qui s'appelle la curiosité. Et on comprend quelque chose, enfin comment dire, je vais le dire comme ça. D'abord, il faut distinguer deux choses qui ne sont pas toujours distinguées, qui sont extrêmement importantes, c'est curiosité et culture. Allons-y. La culture, c'est un déplacement horizontal dans le savoir. On s'intéresse à un autre domaine que celui qui est le nôtre, mais dans cet autre domaine, on s'intéresse à ce qui est noble, important, beau, bien, etc. Un exemple, super bateau, vous êtes, je sais pas, ingénieur, vous vous intéressez à la musique classique, vous allez vous intéresser à Bach, Mozart, etc. Donc vous gardez la même hauteur de vue, mais vous changez de domaine. Ça s'appelle la culture. La curiosité, au contraire, c'est un déplacement vertical dans le savoir. Vous vous intéressez à ce qui n'est pas noble, ce qui est insignifiant, laid, sans valeur, mal. Cette distinction est essentielle. Pourquoi ? Parce que d'abord, si on n'a pas cette distinction, on ne peut pas comprendre pourquoi la curiosité, entre guillemets, est un vilain défaut. Voilà. Je veux dire, s'il s'agit juste de s'intéresser à l'opéra quand on est ingénieur, ça ne paraît pas un vilain défaut. Pourquoi c'est un vilain défaut ? Parce que justement, on s'intéresse à des choses que la société a considérées comme étant sans valeur, sans intérêt, sans noblesse. D'accord ? Et vous voyez aussi pourquoi ressurgit ici cette dimension politique. Je veux dire, pourquoi est-ce que la société nous amène, comment cette hiérarchie qui nous vient de notre éducation nous empêche de nous intéresser à des choses sans valeur. Au passage, James Dyson passant l'aspirateur dans les années 70, c'est, je crois, quelque chose de remarquable. Et c'est d'autant plus remarquable qu'il a construit une fortune entière sur cette chose-là. Enfin, la fortune de Dyson est estimée à 2 milliards d'euros. C'est un chiffre hallucinant. Mais voilà, pour quelqu'un qui a juste passé l'aspirateur, je trouve que c'est une belle récompense. Donc voilà, comment on retrouve cette dimension de curiosité et comment... Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout. Je veux dire, Picasso inventant le cubisme, il va au musée scientifique des missions ethnographiques françaises, je veux dire, qui est l'endroit où on a rassemblé toutes les œuvres africaines qui ont été pillées par les Français. Et donc, il s'intéresse à quelque chose qui est considéré comme sans valeur, sans noblesse, etc., etc. Évidemment, ce n'est pas le cas, mais c'est à l'époque la perception qu'on en a. Donc voilà, donc, il faut faire cette distinction-là pour comprendre pourquoi c'est difficile de s'intéresser aux choses qui sont méprisées. Prenons un troisième exemple, et puis après je vais m'arrêter là. Je vais m'intéresser à la dimension domestication ici. Domestiquer, pourquoi c'est difficile ? Parce que Une personne innovatrice va faire quelque chose qui, par définition, est nouvelle. Et donc, son réflexe, c'est de mettre en avant cette nouveauté. Ce que cet attribut nous dit, c'est qu'au contraire, cette personne doit cacher la nouveauté pour rendre cet objet familier. Donc, on voit comment c'est une tension. Je vais vous donner un exemple. Ce qu'on appelle le design skeuomorphique en design et puis en entrepreneuriat. Le mot skeuomorphique est un peu savant, c'est un mot qui vient des archéologues. Un élément skeuomorphique, c'est un élément qui n'a aucune valeur fonctionnelle, mais qui est uniquement là pour rappeler la manière dont on faisait l'objet dans une autre matière. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez un vase grec qui est dans une collection à Oxford, en fait, et vous voyez ici ces deux pinces, là, ici. Ce vase est fait en poterie, ces pinces, enfin, ces ajouts n'ont aucune valeur, en fait. Quelle est la valeur? Enfin, normalement, si on devait faire un vase en poterie, on le ferait comme ça. D'accord? Pourquoi ils sont là? Tout simplement pour rappeler l'époque où on faisait ce vase en métal. Et donc, on induit un sentiment de familiarité avec l'utilisateur sous cette forme-là. Et vous voyez que cet élément n'a aucune valeur fonctionnelle. Allez expliquer à un ingénieur qui est ultra heureux d'avoir fait le dispositif technique le plus innovant du monde qu'au contraire, il faut rajouter quelque chose qui va cacher toute la valeur de ce qu'il est en train de faire. Vous voyez cette tension-là, c'est une vraie difficulté. Revenons à notre deuxième principe d'universalité. Parce que si on s'intéresse aux difficultés, on peut se poser une question qui est intéressante, c'est quelles sont parmi toutes ces difficultés particulières, celles qui sont spécifiques et celles qui sont génériques. Ça veut dire quoi? Il y a des difficultés du processus qui sont liées à la discipline dans laquelle on innove. D'accord? Pour fabriquer un aspirateur sans sac, à un moment, il va falloir être un ingénieur et fabriquer un prototype qui va fonctionner. D'accord. Mais il y a des difficultés qui sont génériques. La difficulté de s'intéresser aux détails, ce n'est pas une difficulté qui est liée à un secteur particulier. La difficulté est la même qu'on soit chercheur en physique théorique, qu'on soit ingénieur, qu'on soit artiste. Donc posons-nous la question, sur cette liste de 11 difficultés, lesquelles sont spécifiques et lesquelles sont génériques? J'ai fait ce travail, voici la réponse. On va les mettre en jaune, celles qui sont spécifiques, et en vert, celles qui sont génériques. Voilà le résultat. Il n'y a qu'une seule difficulté qui est spécifique. C'est là, D1 prouve la possibilité de réaliser l'idée clé. Effectivement, à un moment, pour prouver que cette idée qu'on a marche, il va falloir faire quelque chose. Un tableau si on est un artiste, un prototype si on est un ingénieur, un article de recherche ou un calcul si on est un scientifique. Mais le résultat est étonnant, tous les autres sont génériques. Je vais le dire autrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les difficultés spécifiques représentent 9,1% des difficultés et les difficultés génériques 90,9%. Alors là, évidemment, j'ai utilisé un raccourci mental qui consiste à dire que chacune des difficultés a le même poids. On est d'accord que c'est un raccourci. Mais en même temps, ce résultat est incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. D'abord, ça veut dire que Einstein et Picasso ont ensemble 90% des compétences. Ils ne sont pas si différents que ça, au final. C'est ça que ça veut nous dire. Oui, bien sûr, il y a des aspects qui sont propres à leur métier. Mais la vaste majorité des compétences nécessaires pour innover sont communes. Deuxième message, et ça c'est un message qui s'adresse en particulier au système d'enseignement, vous enseignez aux ingénieurs la science, vous enseignez uniquement les résultats de la science. Équilibrer un pont de Weston, de Bayoukel, tout ce qu'on veut. D'accord? À aucun moment vous leur enseignez l'attention aux détails, à aucun moment vous leur enseignez la domestication. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous les laissez à la fin de leur cursus d'ingénieur, de scientifique, etc. Vous les laissez avec 9% des compétences nécessaires pour qu'ils puissent innover. C'est pas rien quand même, je veux dire. On voit la difficulté qu'il y a à innover quand on sort d'un système académique comme ça. Ok? Avançons sur le deuxième principe d'universalité parce qu'il y a un autre aspect qui est intéressant. Ici, je vais rentrer dans un aspect qui peut pas peut-être vous intéresser tous, mais en même temps qui est ultra intéressant dans ses conséquences. Ici, j'ai représenté le diagramme qui est couramment utilisé pour parler de ce qu'on appelle la pensée design, le design thinking en anglais, qui est la grande méthode utilisé par les designers et les entrepreneurs pour innover. D'accord? C'est une méthode qui a été inventée en 1999, conjointement par une entreprise qui s'appelle IDEO et puis à l'université de Stanford. En gros, ces gens-là nous disent bah, pour innover, il faut d'abord empathiser. Alors, le terme est un néologisme en français, c'est to empathize en anglais. définir, idéer, prototyper, tester. Et on peut se poser la question naturelle, quel est le lien entre ça et puis ce que je viens de vous raconter ? Ben, le lien est assez évident. Les deux premières étapes, discuter avec des clients potentiels et puis définir la bonne question à se poser, c'est exactement l'observation clé. L'idée, ça correspond à chercher l'idée clé. Et puis, en fait, prototyper et tester, c'est ce qu'on utilise pour réaliser l'objet clé. Donc, on voit qu'on est dans une correspondance. Mais on peut aller un tout petit peu plus loin, et c'est là où ça devient réellement intéressant. Et pour ça, j'ai besoin de distinguer trois mots. Et je m'excuse d'avance pour ceux qui les connaissent. Je sais qu'il y a plein de gens qui les connaissent, mais on a besoin d'avoir un vocabulaire commun. Ces trois mots sont protocole, méthode, outil. Protocole répond à cette question, quoi faire ? La méthode répond à cette question, comment faire ? Et puis l'outil, c'est quoi prendre ? Prendre sous-entendu dans la méthode. C'est très abstrait, donc je vais en donner une traduction concrète. En fait. Supposons que vous ayez un paysage, bah, le protocole vous dit, bah, voilà, vous devez aller d'abord en 1, ensuite en 2, et puis enfin en 3. Ça, c'est un protocole. Okay. Une méthode vous dit, bah, voilà, vous devez passer par ce chemin-là. D'accord ? Là, le protocole ne vous dit pas, je reviens en arrière, le protocole ne vous dit pas comment vous rendre là. Il vous dit juste, vous devez vous rendre là. Et inversement, la méthode ne vous dit pas où vous devez vous arrêter. Elle vous dit juste quel chemin vous devez prendre. Okay ? Et sur ce chemin, bah, vous allez peut-être rencontrer des difficultés que vous vous amenez à avoir un outil, d'accord ? Comme un bâton de marche, mettons. Mais voilà, ça appartient à la méthode. Ce bâton peut être utilisé dans une autre méthode, par exemple pour garder les vaches, qui n'a rien à voir. Mais c'est un outil. Et puis surtout, vous voyez quelque chose de très important, c'est que le protocole a une valeur supérieure à la méthode. En termes épistémologiques, le protocole est toujours plus important que la méthode. Pourquoi ? On peut le comprendre de deux manières. La première manière, très simple, c'est que bah, si vous savez quel chemin prendre, sous-entendu si vous savez quelle méthode utiliser, mais que vous ne savez pas où vous devez vous rendre, c'est plate, comme on dit au Québec. C'est dommage. Okay ? Et inversement, si vous savez où vous devez vous rendre, bah, plusieurs chemins sont possibles. D'accord ? Prenons un exemple très concret. Une recette en cuisine, on vous dit mélanger 200 g de farine avec 3 œufs. Ça, c'est le protocole. Quoi faire ? On vous dit rarement comment faire. On peut vous le dire avec un batteur, avec un mixeur, avec ce que vous voulez. Et on vous dit très rarement quel outil utiliser. D'accord ? Et puis, si vous avez, par exemple, la recette du pot-au-feu, vous devez, pendant 2 heures, chauffer les légumes et la viande à 200 degrés. Ici, encore une fois, c'est le protocole. Des fois, on vous dit la méthode avec un four, mais vous pouvez utiliser une plaque de cuisson, vous utilisez comme aux Açores, enfoncer le plat dans la terre près d'une résurgence d'eau chaude pendant 2 ou 3 heures et vous avez le pot-au-feu. D'accord ? Donc la méthode est inférieure épistémologiquement au protocole. Pourquoi j'insiste là-dedans ? Parce que quand vous déclinez le processus de la pensée design sous la forme d'une déclinaison explicite de qu'est-ce qu'on doit faire dans ces méthodes. Eh bien, vous apercevez que la pensée design nous dit ben, vous devez d'abord écouter votre client. Pour ça, utilisez l'empathie, par exemple, un guide d'entretien. Vous devez ensuite utiliser la méthode américaine Creative Problem Solving. Pour ça, divergence, convergence, suspension du jugement, tout ça appartient à la méthode. Et puis enfin, vous utilisez la co-construction. Et vous apercevez de quelque chose de très important, c'est que la méthode de la pensée design est un mélange de méthodes et d'outils. Point. À aucun moment, on ne vous dit quoi faire. À aucun moment, vous avez un protocole. Et c'est là où ça devient intéressant, parce que l'analyse que je viens faire nous permet de dire, ben finalement, voilà la recette originale de la pensée design. Le protocole, il est là, c'est de trouver l'observation clé. La méthode que nous propose la pensée design, c'est l'écoute active. Et puis les outils sont là. La deuxième étape du protocole, formuler des clés. Pour ça, la méthode que nous propose la pensée design, c'est creative problem solving, etc. etc. Donc on voit comment cette analyse nous permet de comprendre un tout petit peu mieux et peut-être d'avancer dans l'analyse de ce que c'est que la pensée design. Mais surtout, elle nous permet de penser au-delà de la pensée design. Pourquoi ? Parce que finalement, comme on l'a vu, si le protocole est supérieur à la méthode, ben gardons uniquement le protocole. Et chacun sera libre d'utiliser la méthode qu'il y veut, ou qu'elle veut. Si vous voulez danser pour produire des idées, dansez. Vous savez ce que vous devez trouver à la fin. Je veux dire, point. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la méthode américaine Creative Problem Solving. Vous pouvez utiliser la méthode française CK, par exemple, etc., etc. Vous comprenez comment, ici, on arrive à quelque chose qui, je crois, est un résultat intéressant. En tout cas, c'est l'idée d'une recette pour innover. Voilà, une recette qui va au-delà de ce que nous propose la pensée design. Revenons à notre deuxième principe d'universalité pour explorer une troisième conséquence. En fait, j'ai remis à plat ces attributs en respectant les jalons d'observation clé et des clés objets clés. Et vous voyez immédiatement que se pose une question intéressante, c'est de dire, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ça comme une sorte de guide d'innovation ? Finalement, si ces attributs ont du sens, ça veut dire qu'à chaque étape ou à chaque jalon du processus, on doit cocher les cases. Est-ce que j'ai une observation qui est réellement en détail, méprisée, singulier ? Est-ce que j'ai une idée clé qui est réellement provocante, ubiquite, etc. Et donc là, on est peut-être en position, en tout cas c'est une des propositions que je formule à partir de mon analyse, on est peut-être en proposition de proposer un guide pour innover, c'est-à-dire une séquence extrêmement définie de jalons ou de choses à faire. Alors, en disant ça, j'ai bien conscience que j'ai fait la moitié du chemin, c'est-à-dire que j'ai pris des cas d'études d'innovation réussie et puis j'ai essayé d'induire quelles sont les caractéristiques de ces cas d'études. Maintenant, n'importe quel scientifique, et moi le premier en voyant ça, je me dis, mais ok, mais essayons de tester sur une innovation qui n'a pas marché, sur une invention qui n'a pas marché. Et c'est le cas d'étude que je vais regarder. J'ai choisi le Segway. Pourquoi le Segway ? Parce que d'abord, c'est un exemple, un cas d'école d'invention qui n'est pas devenue une innovation. Deux chiffres. Le Segway, c'est 100 millions de dollars d'investissement en pure perte. Ok ? C'est énorme. Pendant à peu près 10 ans, quinzaine, vingtaine.
Définition du Segway, c'est la roue.
Oui, pardon. Voilà le Segway. C'est cet appareil qu'utilise Dean Kamen ici, en fait, pour se déplacer en utilisant un servomoteur capable de rétablir l'équilibre en permanence. Donc, 100 millions de dollars d'investissement dans les années 90, des dizaines d'ingénieurs qui ont travaillé d'arrache-pied pendant des dizaines d'années. Un autre chiffre impressionnant. Dean Kamen et sa bande étaient tellement persuadés qu'ils allaient révolutionner le monde avec le Segway qu'ils avaient dimensionné une usine de fabrication pour 40 000 Segway par mois. Okay ? Au pic de la production, il s'en est produit 40 par mois. Voilà, c'est un beau cas d'école d'échec d'innovation. Okay ? Donc voilà pourquoi. Et puis le troisième argument, extrêmement important, il était tellement persuadé d'écrire l'histoire qu'il a demandé à un journaliste de venir suivre l'ensemble des jalons du processus pour pouvoir en faire un livre, sous-entendu, un livre à la gloire de cette magnifique innovation qu'il était en train de faire. Et donc, on a un cas ultra rare d'une invention qui a échoué à devenir une innovation qui a été documentée par quelqu'un. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour ceux qui s'intéressent au processus d'innovation de voir est-ce qu'on peut retrouver dans cet échec des caractéristiques qui correspondent à ça. Alors, on est à Manchester. Manchester, ce n'est pas en Angleterre, c'est dans le New Hampshire, aux États-Unis, côte Est, pas très loin de Boston, en 1990. Dean Kamen a 39 ans. C'est clairement un garçon surdoué. Je peux vous lire mes notes, elles sont impressionnantes. À 12 ans, il s'ennuie à l'école. À 14 ans, il préfère lire Newton dans le texte plutôt que la leçon du professeur. À 16 ans, il refait entièrement le dispositif d'éclairage du Planetarium de New York. À 20 ans, il fait fortune en inventant une machine portable permettant d'injecter des doses de médicaments aux patients dans les hôpitaux sans assistance. À 30 ans, il revend son entreprise. Il devient multimillionnaire. Il achète une île, un hélicoptère. Il décide de fonder un gouvernement sur cette île qui soit indépendant du gouvernement des États-Unis. Il va jusqu'à imprimer une monnaie qui est censée être indépendante du dollar américain. Et il va jusqu'à un moment envisager l'idée de faire sécession des États-Unis. Hein. On est d'accord. Donc, clairement, quelqu'un qui ne raisonne pas comme tout le monde. Et c'est ça qui devient intéressant. Je vais juste regarder l'heure pour voir combien de temps il me reste. Et donc, en 1990, Dean Kamen se promène dans un centre commercial et puis il voit quelque chose qui l'intrigue. C'est quelqu'un qui est en situation de handicap dans un fauteuil roulant. Et qui a du mal à monter une marche de trottoir, on est d'accord, quelque chose d'assez banal. Et il observe ça, il est un peu choqué. Il se trouve qu'il retrouve cette personne un tout petit peu plus tard dans un magasin qui vend des glaces. Et la même personne en situation de handicap, dans son fauteuil roulant, a du mal à attraper le cornet de glace qui est sur le comptoir. Et il a cette remarque incroyable. Il dit « Nous sommes capables d'envoyer un humain sur la Lune ou dans les profondeurs de l'océan, mais nous ne sommes pas capables de faire en sorte qu'un fauteuil roulant franchisse un trottoir. » C'est l'observation clé. Et on retrouve tous les attributs de l'observation clé. C'est un détail. Quelqu'un qui a du mal à franchir un trottoir, c'est un détail de la vie quotidienne, c'est un détail singulier. Ben, c'est ce que nous dit Dean Kamen. Je veux dire, c'est incroyable qu'on ne soit pas capable de résoudre ce problème. Et puis c'est un détail méprisé. Pour la vaste majorité des gens qui sont en situation de non-handicap, ce qui se passe pour les gens en fauteuil roulant, c'est pas intéressant. Donc on retrouve l'observation clé. Alors dès cet instant, lui, il commence à travailler. Il épluche tous les brevets qui existent sur le fauteuil roulant. Et il est en échec. Pendant 2 ans, il n'arrive pas à trouver la solution. Et puis la solution émerge d'une anecdote, il le raconte comme ça. À un moment, il sort de sa douche, ça fait rire l'hydérique parce qu'il m'arrive exactement la même chose il y a 1h30. Et puis il glisse. Et il glisse de sa douche et il se rattrape comme il peut. Voilà. Et là, il percute un truc intéressant, c'est qu'en fait, au lieu de réfléchir à un fauteuil roulant qui soit en permanence stable, il dit qu'il faudrait mieux réfléchir à un fauteuil roulant qui soit à l'équilibre. C'est une problématique plus vaste. Pourquoi l'équilibre ? Parce que l'équilibre peut être stable ou instable. Et typiquement, quelqu'un qui glisse ou qui marche, c'est quelqu'un qui rétablit en permanence un équilibre qui est instable. C'est l'idée clé. C'est l'idée clé, elle a tous les attributs, je vais la faire courte. Pourquoi c'est provocant ? Par exemple, parce qu'en physique, on appelle ça le problème du pendule inversé. Vous avez une masse au bout d'une tige et puis vous bougez le socle en sorte que la masse reste en permanence en hauteur. Mais c'est facile pour une masse, c'est une expérience de laboratoire, mais quand vous avez une personne en situation de handicap sur un fauteuil, c'est pas la même, on va dire ça comme ça. En termes d'ingénieur, c'est vraiment compliqué. Mais c'est une idée clé. Et voilà, il commence à designer son prototype qui ressemble à une table de chevet sur roue, et puis effectivement, quand on la pousse, elle se rétablit, c'est un prototype, donc ça marche pas très bien, mais il peut poser un brevet en 1992 pour ça. Et puis là, il se produit une bifurcation. Il se produit une bifurcation, pourquoi ? Parce qu'à un moment, un des ingénieurs monte sur cette table de chevet et commence à se balader dans le laboratoire, mais debout, comme s'il était en train de faire du surf. Et là, tout le monde rit, et puis à un moment, après avoir ri, on se dit « mais là, il y a quelque chose d'intéressant ». Dean Kamen arrive et il dit « mais waouh, il faut qu'on fasse ça ». Et donc, vous avez une bifurcation dans le projet que j'ai représenté comme ça. Alors, au passage, voilà le produit final en fait, de cette quête, c'est le fauteuil roulant qui est capable de s'auto-équilibrer et donc qui est capable de monter des marches, en fait, toujours Dean Kamen. Voilà à quoi ça ressemble. Le nom de code du projet de fabriquer ce fauteuil roulant, c'est le projet Fred. Donc vous avez l'observation clé en 1990, vous avez l'idée clé en 1992, et puis vous avez le brevet ici quelque part. Et puis en mai 1993, vous avez cette expérience où tout d'un coup il se met à monter sur la table. Et là, c'est une bifurcation. Pourquoi ? Parce que Dean Kamen décide de lancer un deuxième projet qui s'appelle le projet Ginger, dont l'idée, c'est de dire, ben, on va faire non plus une table de chevet, mais un truc très bas, et les gens vont monter dessus, ils vont pouvoir avancer en se déplaçant. C'est le prototype du Segway, en fait, qui va aboutir en novembre 2002 au Segway. Mais vous voyez qu'il y a une différence fondamentale. C'est qu'autant il y a une observation clé, une idée clé dans le cas du projet Fred, il n'y a pas d'observation clé dans le cas du projet Segway. Voilà. Ça ne vient pas de la réalité, ça vient de la technologie. On le fait parce qu'on peut le faire. Et s'il n'y a pas d'observation clé, il n'y a pas d'alliance, donc il n'y a pas d'idée clé. D'accord ? Je pourrais revenir là-dessus, mais il n'y a pas non plus d'objet clé. Il n'est pas domestiqué, il n'est pas écosystémisé. Et donc voilà à quoi ça ressemble, l'analyse. Alors, juste en particulier, pourquoi c'est un problème ? Le fait qu'il n'y ait pas d'observation clé, ça va empêcher Dean Kamen de se positionner par rapport à une frontière extrêmement importante dans le transport. C'est la frontière qui limite la zone piétonne de la zone des voitures. La ville est divisée en deux, alors maintenant en trois avec les pistes cyclables, mais à l'époque en deux, vous avez deux zones dans la ville. C'est la zone des voitures et puis la zone des piétons. Ce n'est pas du tout les mêmes zones. D'accord ? La zone des piétons est une zone encombrée, donc le déplacement est accidentel, il doit être rapide, manœuvrable, et puis voilà, le but c'est d'aller vite. C'est d'aller, pardon, c'est d'être capable de naviguer dans un environnement accidentel. La zone de voiture, c'est au contraire une zone qui est faite pour aller vite. Donc en fait, c'est la célérité qui va définir un certain nombre de caractéristiques, en particulier l'absence d'obstacles, en particulier la protection qui est nécessaire quand on va à 50 ou 60 km/h, etc. Le fait qu'il n'y ait pas d'observation clé fait que Dean Kamen ne sait pas s'il veut positionner le Segway dans le trottoir, dans la rue, pardon, ou sur le trottoir. D'accord ? Et cette ambivalence va se retrouver dans tout le projet. D'accord ? Elle va se retrouver dans tout le projet parce que, ben, hein, je vais le retrouver. En particulier, Dean Kamen, quand il décrit ce qu'il est en train de faire, il a deux manières de l'écrire. Première manière, le Segway sera à la voiture ce que la voiture fut à la diligence. Donc là, il se positionne sur l'espace des voitures. Et puis deuxième manière de le décrire, il le dit comme ça. Nous sommes un piéton électrique, ce n'est pas un véhicule, c'est une alternative à la marche, on ne peut pas les laisser nous appeler un scooter. Il le dit d'une autre manière, on n'a rien vu au niveau du piéton pour améliorer les transports depuis qu'on a inventé les baskets. Donc vous voyez, cette ambivalence, elle est là. Et elle est là parce qu'il n'y a pas d'observation clé. D'accord ? Et cette ambivalence va se retrouver dans le prix du Segway. Parce que dans chacun de ces deux espaces, les référentiels de prix ne sont pas les mêmes. Le Segway était vendu 5 000 euros. 5 000 euros, ce n'est pas beaucoup pour une voiture. Mais c'est énorme pour une trottinette. Donc, suivant l'espace dans lequel on se positionne, ça va être correct ou pas correct, en fait. Et donc, vous voyez comment, au final, quand on fait l'analyse, on s'aperçoit que bah, y a un certain nombre d'attributs qui sont manquants dans ce processus. Si on peut comprendre, en tout cas, c'est ma proposition, l'échec du Segway, non pas en s'intéressant à la psychologie de Dean Kamen ou à la psychologie des ingénieurs qui étaient là, mais à ce qu'ils ont fait réellement. Je veux dire, est-ce qu'ils ont tel attribut dans leur processus ? Et c'est tout l'esprit de la recherche que je fais, c'est de ne pas m'intéresser aux personnalités. C'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas mon truc. Mais qu'est-ce que font les gens ? Et à partir de ce que font les gens, on peut en déduire, je pense, des principes peut-être universels. Voilà, je crois que voilà, c'est à peu près la fin. Je voulais en profiter pour remercier les gens, notamment de l'arsenal de l'innovation qui m'ont contribué et dont certains sont ici, je les remercie. Deux mots avant de finir. Au-delà des résultats particuliers que j'ai pu vous présenter, j'espère que vous avoir convaincu que nous sommes au seuil d'une nouvelle compréhension de ce que c'est que le processus d'innovation, de créativité, de création en général. Moi, lorsque j'étais étudiant, dans les années 90, comme Lidéric, on était ensemble, comme Marie-Laure, on nous disait, la physique est la science du 20e siècle, la chimie est celle du 19e siècle, la biologie sera celle du 21e siècle. Je pense que cette prédiction est caduque maintenant, désormais, parce que voilà, la science, la réelle science du 21e siècle, ce sera la science de l'innovation. Pourquoi ? Parce que sans innovation de rupture dans tous les domaines, on n'arrivera pas à éviter la catastrophe climatique. J'ai cité Lidéric citant Anne Sylvestre, là où j'ai peur, j'irai. Un philosophe Søren Kierkegaard avait cette phrase que j'aime beaucoup, il disait « Ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. » Cher Lidéric, toi comme moi, nous sommes allés là où nous avions peur, nous avons fait le difficile, et tant que d'autres que nous rejoignent sur ce chemin et que nous soyons soutenus dans ces efforts par des institutions fortes. C'est pourquoi j'aimerais profiter de cet espace que tu m'offres pour renouveler ton appel, celui que tu as fait dans la leçon inaugurale à la création d'un CERN de la transition environnementale. Je suis persuadé qu'en combinant trois choses, à la fois les résultats extraordinaires que tu as dans ton laboratoire ou des gens comme toi dans le laboratoire, la volonté de transférer ces résultats le plus rapidement possible, ce n'est pas quelque chose qui est apparu dans cette conférence, mais je sais que c'est le cas, tu as créé plusieurs start-up. Et puis enfin, la compréhension des enjeux fondamentaux qui sont derrière l'innovation. Je pense qu'en combinant ces trois facteurs, on est capable de faire une différence dans le monde. Pourquoi faire une différence dans le monde ? Parce que, je le disais comme ça dans une précédente conférence, en temps de paix, on fait ce qu'on veut. En temps de crise, on fait ce que l'on peut. Mais en temps de guerre, on fait ce que l'on doit. Il y a un chiffre qui est incroyable. Dans le 6e rapport global sur l'environnement de l'Organisation des Nations Unies, donc on parle de l'ONU, on ne parle pas de n'importe quelle organisation, 9 millions de personnes meurent chaque année des conséquences de la pollution de l'air, du sol, de l'eau. 9 millions de personnes. Si vous faites le calcul sur 6 ans, ça fait 54 millions de personnes. 54 millions de personnes, c'est autant en intensité destructive que la Seconde Guerre mondiale. Pardon ? Oui, c'est ça. Donc voilà, j'aurais aimé ne jamais avoir le dire, mais il est venu le temps de faire ce que l'on doit. Et c'est valable pour chacun de nous individuellement, mais aussi pour les institutions qui sont capables de faire en sorte que ces recherches soient appuyées au niveau le plus important. Merci Lydéric, merci à vous pour votre attention.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.